Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
Marcher sur l'eau, donc film documentaire de Aïssa Maïga, production Bonne Pioche et Eco Studio, film qui nous emmène au Niger. Et François, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi ça nous parle.
Alors il s'agit d'un documentaire, on va suivre pendant un an les déboires, les aventures, les peines et les joies d'un petit village du Niger qui s'appelle Tatiste et qui est au bord, donc ou même franchement dans le Sahel, je pense qu'on peut dire, donc dans une zone semi-désertique, parce que si elle était désertique, ils n'y seraient pas. Et donc, ces gens-là ont un problème, comme le titre du film l'indique, fondamental, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau se fait via un puits qui est à bonne distance, donc ils vont en général avec un âne. C'est les femmes du village en général qui vont chercher l'eau avec l'âne, ils mettent les bidons sur l'âne, ils vont jusqu'au puits, ils puisent l'eau dans le puits et ils reviennent avec l'eau. Le problème, c'est que le puits, de plus en plus souvent, est à sec. Et celui qui est à blâmer pour ça, c'est tout simple, c'est, pour ne pas dire tout de suite le capitalisme, c'est-à-dire le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Et donc ils ont cette problématique-là, et pour résoudre cette problématique, ils vont faire une demande de forage auprès du gouvernement. Et donc on va les suivre, ça commence à l'automne, ensuite on va voir l'hiver, le printemps et l'été, mais là-bas les saisons sont un peu différentes, c'est saison des pluies, saison sèche, donc on commence dans la saison sèche, on voit la saison des pluies à un moment, et on revient à la fin avec une bonne nouvelle, c'est que la machine arrive pour construire le puits. Il faut savoir que le film a été fait en partenariat avec une ONG locale, et c'est un film documentaire, mais qui a quand même une bonne vibe de film dramatique, puisqu'en fait on va vraiment suivre les personnages du village comme des personnages. Il y a certains moments où il va y avoir des scènes assez intimistes, où on sent quand même qu'il rejoue des scènes du quotidien, et ça se retrouve aussi dans la mise en scène, puisqu'on a vraiment une photographie qui a l'ampleur, en tout cas, d'un film dramatique, et une volonté d'esthétisation qui est très forte.
Je suis à sec, ce qui est un peu paradoxal vu que, comme les personnages du film, je suis à sec. Oui, parce que je ne sais pas prendre la parole tout de suite derrière toi, parce que je pense qu'autour de cette table, parmi ceux qui l'ont vu, je suis celle qui a le moins s'accroché au film. Je l'ai trouvé déjà indiscutable sur le fond, même la forme est plutôt jolie, mais je ne l'ai pas non plus trouvé, pour le coup, extraordinaire de ce point de vue-là. Enfin, je trouve que... Alors, c'est dépréciatif de dire documentaire télé, c'est dépréciatif pour les documentaires télé qui sont très bons, mais justement qui sont très bons. Et finalement, pourquoi ce documentaire-là au cinéma spécifiquement, je comprends pas forcément. Après, il n'y a pas de raison de faire du snobisme sous prétexte que ça passe sur un écran de cinéma. C'est vrai que c'est un documentaire de bonne facture, comme tu le disais, qui a quand même des ambitions formelles assez intéressantes. Il m'a pas totalement bouleversée, mais je crois que pour le coup, Isabelle, un peu plus.
Oui, alors déjà, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, et je pense que le problème, c'est pas tant que ce documentaire-là soit au cinéma, mais bien qu'il n'y ait pas plus de documentaires qui soient montrés au cinéma.
C'est sans doute
ça. Parce que c'est un genre qui a été vraiment relégué au petit écran, et c'est dommage parce qu'il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui sont faites dans le monde du documentaire. Notamment, je pense par exemple aux damnés de la commune qui auraient vraiment mérité d'être montrés sur grand écran, mais ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le dire. Oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré. Je suis très documentaire de toute façon, donc c'est vraiment un genre que j'apprécie, que je consomme beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir un documentaire sur le grand écran. Donc moi j'ai plutôt en fait eu la réaction inverse de toi, où j'étais trop contente en fait de le voir au ciné. J'ai trouvé que visuellement c'était magnifique. Au niveau du mixage son, c'était magnifique. Toute l'équipe en fait, qui a vraiment travaillé sur ce film en prod a fait un travail que je trouve exceptionnel. Il y a un côté effectivement très film, mais très contemplatif, avec vraiment Ça, on s'attarde vraiment sur les plans, on s'attarde sur les visages, sur, sur les scènes du
sur
quotidien.
Sur la nuit qui tombe.
Ouais, voilà, sur la nuit qui tombe, mmh. sur les petits moments, les repas, les histoires.
Les animaux qui tournent autour du village aussi, ouais. Qu'on voit beaucoup.
Et c'est tellement poétique, c'est jamais misérabiliste. J'ai trouvé que ça avait un regard très pudique sur la situation, parce que c'est quand même une situation qui est extrêmement extrême et poignante, parce que les mères partent pour aller travailler je sais plus dans quel pays limitrophe,
ils descendent au Nigeria,
au Togo, Niger et au Togo,
ouais. Ouais. Et donc en fait la grande majorité du film on suit une jeune fille dont la mère est partie et elle s'occupe en fait de tous les enfants dont les mamans sont parties et c'est vraiment triste, on sent qu'il y a une vraie douleur. Mais c'est jamais tire-larme, c'est jamais... Bon, j'ai bien versé ma larme quand même. Mais c'est pas... On sent que voilà, il y avait vraiment une nécessité de montrer les personnages de ce documentaire dans toute leur dignité.
Oui.
Et ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que le regard d'Aïssa Maïga était vraiment, vraiment beau de ce côté. J'ai adoré entendre la langue, j'ai adoré voir la vie de ce village. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, sans avoir non plus un regard exotisant ou sur les gens. Donc j'ai trouvé que c'était magnifique. J'avais pas envie que ça s'arrête. C'était une de mes expériences cinéma préférées de l'année et j'ai trouvé que c'était splendide. Je les aurais suivies pendant 5 ans encore, sans problème.
Et c'est vrai que pour moi, il y a quand même un moment où le film se révèle un petit peu. Mais en fait, c'est juste que je regarde que ça arrive peut-être un petit peu tard. Mais pour autant, c'est aussi par nécessité parce qu'il y a des choses à raconter avant, tout simplement chronologiquement. Mais c'est qu'on commence, du coup, je crois au mois d'octobre.
Ouais.
On voit la lande désertique. On se dit, mais pourquoi il reste là, en fait? Il n'y a rien. C'est juste du sable, du désert. En plus, ils n'ont pas d'eau. Enfin, tu arrives au mois de janvier, c'est encore pire. Il y a du vent. Enfin, tu te dis, mais c'est un cauchemar, cet endroit. Et puis, tout d'un coup, tu arrives au mois de juin, je crois. Et en fait, avec les pluies, avec les saisons des pluies, l'herbe a poussé.
C'est verdoyant.
C'est verdoyant. Alors, moins sans doute, c'est ça. Le contraste, c'est impressionnant, quoi. Tout d'un coup, c'est complètement transfiguré. Et alors, bon, tu comprends que c'est quand même beaucoup moins transfiguré que ça n'aurait dû l'être, que parce que des règlements climatiques, normalement, ce serait encore plus touffu, il y aurait plein d'animaux dans la savane, etc. Et là, tu prends, parce que tu as cet avant-goût de paradis perdu, enfin voilà, parce que tu as cet avant-goût, tu comprends, en fait, tu prends beaucoup plus la dimension de ce que ça aurait pu être, de ce que ça devrait encore être. Et tu comprends aussi beaucoup plus l'attachement qu'ils peuvent avoir à ces territoires et voilà, et ce qu'ils font là et pourquoi il y a toujours quelque chose qui les rattache à tout ça. Nam, tu avais vu ce film toi aussi?
Oui, moi je l'ai vu aussi. Mais je dirais que le seul aspect dont on n'a pas trop parlé, parce qu'il y a deux personnages qu'on va suivre, donc la fille de 14 ans qui est en fait la fille du chef du village. Qui est l'autre personnage qu'on va suivre, alors pas tout le film, parce qu'il y a un moment où il est obligé de partir avec ses bêtes pour trouver du pâturage, et il part plusieurs mois avant de revenir, voilà. Mais l'autre aspect du film, c'est la place centrale de l'école et du maître de l'école, qui sert vraiment d'un des piliers de la communauté, parce qu'en fait, quand les parents sont pas là, lui, il est toujours là, donc il peut quand même surveiller un petit peu les enfants, même si du coup, ils viennent pas forcément tous à l'école, parce que si les parents sont pas là, pourquoi ils s'emmerderaient à y aller?
Ne serait-ce que parce qu'il faut aussi
qu'ils vont chercher l'eau, quoi.
C'est ça, il faut c'est aller ça, chercher l'eau, il faut faire tourner le village.
Et puis surtout, la particularité aussi de son rôle, c'est que l'enseignement se fait en français, alors que dans le village, le français n'est clairement pas leur langue. Et même la lettre de demande de forage qui rédige se fait en français. Donc il y a un côté un petit peu élitiste de la culture et de la langue, comme ce qu'on a pu avoir chez nous aussi à une époque. Hein. Et il y a un passage qui est assez dingue, c'est quand il y a le préfet qui vient au village, bon, il voit l'école qui est nourrie, donc après, il la répare. Mais lui, son premier truc qu'il dit, c'est... alors, à la base, c'est une demande de forage. Il arrive, il fait « Oui, il y a des problèmes au niveau de l'éducation ici, il faut s'éduquer absolument, etc. » Et c'est assez fou, parce que t'as l'impression que le mec, il était vachement attendu, il arrive, il en met trois vaches chacun. Et en même temps, le truc, c'est que le préfet a également raison. parce que c'est une des grosses problématiques de ce genre de village, c'est que l'illettrisme, ça les empêche également de communiquer ou même d'avoir des rapports commerciaux avec pas mal de gens. Mmh. On apprend par exemple, parce que c'est un village très traditionnel, et par exemple leurs bêtes, ils ont énormément de mal à les vendre dans les villes, parce qu'il y a tout un tas de régulations dont ils ne tiennent pas compte, tout un tas de papiers qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais fait comme ça et qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Et donc c'est vrai que c'est assez... ça fait vraiment village perdu au milieu de tout. Et en même temps, c'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a d'autres villages un peu partout, ils croisent plein d'autres gens. Il y a une ville qui est pas très loin, mais ça fait un peu enclave perdue.
Et en même temps,
où t'as l'impression que les gens s'accrochent pour rester là. Et en même temps, c'est leur vie. Ils vivent dans des conditions difficiles et ils s'en accommodent aussi, parce qu'ils arrivent à s'en sortir mine de rien, même si ça a pas l'air facile.
Mais il y a un petit peu ce côté bizarre, justement, on avait cette visite du préfet qui se plaint de l'acidité à l'école, et alors que c'est là, ils ont besoin d'eau en fait, ils peuvent pas boire, donc comme on le dit, nos enfants ils vont à l'école le jour où on aura de l'eau, mais quelque part c'est à quoi bon élever le plafond quand le plancher s'effondre, commence par répondre aux besoins primaires, et c'est là aussi que tu sens qu'il y a une sorte... Alors, pas de mépris, parce que je pense pas que ce soit conscient de la part du préfet, mais justement ce manque d'inconscience, cette inconscience par rapport aux besoins primordiaux auxquels peut faire face cette communauté, où par ailleurs tu vois que c'est des gens qui bossent dur, ils sont pour arriver à survivre dans ces conditions, c'est que clairement ils sont pas
mais après ça se trouve le préfet il était peut-être juste en mode automatique, tu vois, parce que l'analphabétisation dans ce genre de région est un gros problème, et donc c'est vrai que peut-être que c'est son discours habituel, tu vois, il arrive quelque part, il fait oui, bon, faut aller à l'école. Tu vois, ça se trouve c'était juste ça, parce que
oui c'est sûr,
parce qu'au final, et en plus ils l'ont eu le forage au final,
donc maintenant il va falloir aller à l'école sérieusement.
Vous voulez de l'eau, vous allez travailler.
François, je vois envie de s'exprimer.
Oui, il y a un truc aussi qui m'a plu dans le film, c'est qu'il n'y a pas non plus un angélisme de ce village. C'est aussi un village où on perçoit que... on est là, c'est quand même un film assez optimiste, assez feel-good au final, où on voit des problèmes concrets, mais il y a aussi des problèmes, comme tu disais, il y a une part de tradition et tout ça. Et en fait, ça va être amené par petits moments, par exemple, une fois... l'héroïne entre guillemets qu'on suit va être avec une petite fille, et la petite fille va lui dire mais toi t'es gentille, t'es la seule dans le village qui ne tape pas. Et en fait quand même en creux comme ça à travers ces personnages là on va quand même voir qu'il y a des tout n'est pas rose, quoi. C'est pas le gentil monde des bisounours au milieu du Sahel non plus, c'est des êtres humains normaux comme tout le monde, et à chaque fois c'est amené de manière très subtile. Mais ça garde quand même dans le fond cette idée que il est possible de réussir ensemble, de former communauté, de réussir à faire des choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer, tu parlais d'Eco Studio, la société de production qui a fait le film. Ils ont lancé un financement participatif sur KissKissBankBank. Si vous tapez marché sur l'eau KissKissBankBank, je pense que vous le trouverez. Et vous pouvez contribuer à apporter des fournitures scolaires ou apporter des choses dans ce village concrètement. Et c'est aussi ce que je trouve intéressant dans le projet, c'est que c'est vraiment un projet où finalement l'ONG a accompagné le village, a construit ce projet de forage avec le village, et en plus Aïssa Maïga est arrivée pour faire un documentaire, et donc a vraiment impliqué les villageois dans leur propre histoire, quoi. Elle les a aidés à raconter leur propre histoire au fur et à mesure avec eux. Et je trouve que c'est un film qui est même plus fort. Moi aussi, c'est un de mes films préférés de l'année, honnêtement. Sans doute le préféré jusqu'ici. Et parce que c'est un film qui, pour moi, dépasse le cinéma, quoi. Tout simplement, il y a un film qui est le témoignage de leur action. Et ça s'étend au-delà. Et je trouve ça très beau. Et j'aime ce genre de film.
Surtout qu'en plus, à la fin du film, il précise bien, avec des cartons, que le forage de ce village... ça permet eux de les approvisionner en eau, mais également énormément de villages aux alentours, sur plusieurs dizaines de kilomètres, et qu'en fait il y a énormément de gens, pas que les personnes qu'on voit dans ce film, qui dépendent de ce forage pour pouvoir subsister, parce que l'eau reste toujours un problème quand même dans ces régions là, tu vois.
Bon ben, merci beaucoup pour ce débat, pour cette indication sur le Kiss Kiss Bang Bang.
On mettra le lien sur le Twitter.
Voilà, on mettra le lien sur le Twitter si vous souhaitez vous y intéresser, voire participer. Merci beaucoup.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.